Bonjour à tout le monde, je m'appelle Charlotte Rieux, je suis ostéopathe depuis 2016 et je suis aussi praticienne certifiée Alliane Santé et Sport, donc ça depuis 2017. En termes de sport, moi je vais plutôt travailler, donc là récemment, notamment sur des joueurs de tennis, et sinon je pratique plutôt l'haltérophilie et le crossfit et de la course à pied. Donc du coup c'est plutôt sur ces sports-là que je peux utiliser le procédé Alliane Sport.
Bonsoir à tous, donc Stéphane Grenier, je suis prof de golf à Molières dans le sud-ouest. On va avec Thierry, avec qui nous travaillons, vous présenter comment on utilise le procédé Alliane. Donc pour soit de la relaxation, soit un travail de relâchement et de concentration, et puis pour un travail de changement moteur. Travailler sur le geste et l'intégration d'un geste plus rapide que sans le procédé.
Oui, bonsoir à tous. Donc Thierry Anger, je suis entraîneur de golf. J'entraîne l'équipe de France militaire de golf. J'entraîne également des joueurs et joueuses professionnelles. Et comme Stéphane, j'utilise quasiment au quotidien le procédé Alliane dans l'amélioration du geste de golf, qui est un geste qui est classé dans les plus techniques du sport.
Donc pour vous présenter un petit peu dans cette première partie, qu'est-ce que la reprogrammation neuromotrice? C'est un procédé qui va nous permettre la modification, la correction ou l'acquisition d'un nouvel automatisme moteur. C'est quelque chose d'assez rapide. Et l'objectif de départ, c'est de désamorcer un geste qui est non fonctionnel et de le reprogrammer, de le retravailler avec une fonction motrice qui va être adaptée aux besoins du patient ou du sportif. Pour cela, on va utiliser un trépied. Ce trépied, il va être composé dans un premier temps. On va le revoir après plus en détail. Mais donc, on aura l'acquisition des sensations proprioceptives. Dans un second temps, on aura une intégration de ces informations proprioceptives au niveau cortical par l'intermédiaire de l'imagerie mentale et plus précisément de l'imagerie motrice. Et enfin, on aura un ancrage qui sera en sous-cortical par des sondes basse fréquence qui sont des fréquences avec des fréquences qui sont spécifiques et qui sont propres justement à l'Alpha Box et au procédé Alliane. L'objectif global de cette méthode, c'est d'intervenir sur la genèse du mouvement, sur la commande motrice à son origine et non sur la conséquence du geste, c'est-à-dire ce qu'on voit au quotidien. Donc comme je vous le disais, on fonctionne sur un trépied. Donc la première partie de ce trépied, c'est la recherche des sensations proprioceptives. Ces sensations proprioceptives, dans un premier temps, que ce soit en réathlétisation ou dans le sport, on va les utiliser. Le but du jeu, ça va être de comprendre le ressenti du patient par rapport à ce qui a été altéré. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais prendre l'exemple d'un sportif, si je prends l'exemple, du sportif, par exemple, avec lequel j'ai travaillé tout à l'heure, son problème de geste technique, c'était d'avoir une flexion de coude qui était trop importante sur son service. C'est un tennisman. Un jeune tennisman. Et donc le coach voulait modifier ce geste-là pour qu'il soit plus efficient, plus performant derrière dans la durée. Qu'on a donc fait dans un premier temps, c'est utiliser cette première partie du trépied en venant lui faire ressentir ses sensations proprioceptives. Je lui ai fait effectuer son geste plusieurs fois afin qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent au niveau de ce geste. Donc comprendre la contraction musculaire qui peut se passer, la qualité de ce geste, tout ce qui se met en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un point clé qui va accompagner cette prise en charge de sensations, ce ressenti de sensations proprioceptives, ça va être une prise de vidéo et de photo. C'est-à-dire qu'à toutes nos séances, on va filmer le patient ou le sportif, que ce soit avant ou après la séance. Tout simplement, avant notamment, ça va nous servir à quoi? À faire prendre conscience au sportif ou au patient du mouvement réellement réalisé. C'est-à-dire pas seulement l'image qu'il s'en fait. Parce qu'on peut avoir tendance à s'imaginer en train de faire quelque chose. On a l'impression de faire quelque chose, sauf que en réalité, c'est pas du tout ce mouvement-là qu'on est en train de faire. Donc, ça nous permet de se mettre face à la réalité en image, et donc on est sur du réel. L'idée, c'est de se dire qu'on va partir des afférences extéroceptives et des afférences proprioceptives, d'où l'importance de les récolter. Ces afférences-là, pour moi, elles vont ensuite donc aller soit au niveau du thalamus, soit au niveau du pariétal. Dans tous les cas, elles vont se rejoindre au niveau de notre cortex pariétal qui va gérer tout ce qui est le cortex sensitif. Et ça va créer comme un brouillon du mouvement, comme si on écrivait au crayon à papier notre geste, ce vers quoi on veut aller. Une fois qu'on a créé notre brouillon du mouvement, on va l'amener vers finalement une mise au propre. C'est-à-dire, je le présente au cortex préfrontal et au cortex frontal qui, eux, vont mettre à cette composante sensitive, une composante motrice. Une fois que j'ai mon plan qui est bien établi, qui est écrit au propre, tout ça va être présenté au niveau des ganglions de la base, du thalamus, et on pourrait également rajouter la substance réticulée à cet endroit-là. Et ici, on va avoir finalement un système de filtration du mouvement, donc au niveau de mes ganglions de la base, du thalamus et de cette substance réticulée qu'on pourrait rajouter, qui vont nous permettre derrière, de, si le mouvement est OK, est validé, de pouvoir continuer vers mes aires motrices, mes aires prémotrices, le cervelet. Et tout ça, ça va nous donner la coordination, l'équilibre, comment effectuer mon geste. Puis, on va y intégrer une notion de force jusqu'à arriver au moteur, aux motoneurones musculaires qui vont finalement transmettre toute la commande motrice vers le mouvement. Ça sera intéressant de penser à cette partie-là, ganglion de la base, thalamus. On y reviendra un petit peu plus loin parce que rappelez-vous, je vous dis que c'est un système de filtration et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir se retrouver plus tard face à des inhibitions motrices. La deuxième partie importante de ce trépied, ça va correspondre à la création d'une image mentale. Cette image mentale, donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'une image mentale, c'est simplement une représentation à la base qui est d'une chose, d'un acte ou de quelque chose globalement dans l'esprit d'un individu. Avec la reprogrammation neuromotrice, on va travailler sur de l'imagerie motrice. Donc l'imagerie motrice, c'est juste un cas particulier de notre image mentale. Et elle va consister tout simplement à imaginer un geste, à imaginer une action sans l'exécuter physiquement. Cette image motrice, comment on va pouvoir la construire? Avec différentes parties. On a notre définition même, c'est-à-dire j'ai la représentation mentale d'une action. Et on va rendre cette représentation mentale encore plus précise. Pour cela, on va utiliser notamment les modalités sensorielles, comme le VACOG. Donc le VACOG, c'est toutes les informations visuelles. On peut récupérer les informations visuelles qui se passent auprès de l'action pour les rentrer dans notre image mentale. Et surtout, les sensations qui vont nous intéresser, c'est les sensations kinesthésiques, parce que justement, elles sont reliées à notre proprioception. C'est pour ça qu'on récupère ces sensations-là au départ de la séance et sur la partie négative et sur la partie positive pour ensuite pouvoir les intégrer dans notre image mentale. Donc, notre image motrice, elle va être à la fois visuel, mais aussi kinesthésique. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qui fait une particularité de la méthode. On va pouvoir avoir aussi une expérience introspective, c'est-à-dire se mettre à la place. Donc, c'est le sportif qui va rentrer dans sa bulle et se dire qu'est-ce que je ressens quand j'effectue ce geste. Et il va nous retranscrire tout ça et ça va rendre encore l'image motrice encore plus précise et efficace. Comment l'imagerie mentale, ça fonctionne? Parce que c'est assez important de se faire un petit rappel dessus. C'est juste l'instruction d'un stimulus et l'effet que ça produit au niveau du cortex cérébral. On va ensuite voir une imagerie motrice, donc finalement l'imagerie mentale, les zones qu'elle va susciter, qu'elle va venir activer au niveau du cerveau. Et ce qu'on a d'intéressant, c'est ce qu'on voit aussi, c'est les aires qui sont activées lors d'un mouvement, la réalisation même d'un mouvement. La dernière ligne, c'est celle qu'il faut même retenir, c'est la superposition entre l'imagerie mentale, les activations des aires produites par l'imagerie mentale et par le mouvement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une grande similitude entre ces aires activées lors de l'imagerie mentale et les aires activées lors de la réalisation même du mouvement. On va parler d'équivalence neurofonctionnelle à ce niveau-là. Donc, on comprend du coup avec ce schéma-là que finalement, quand je suis en train d'imaginer quelque chose de façon à la fois du coup visuelle et kinesthésique pour rentrer dans mon imagerie motrice, finalement, mon cerveau, il va envoyer au niveau de mon corps les mêmes informations, il va activer les mêmes aires motrices que s'il était en train de réaliser ce geste, en tout cas en grande partie. Et tout ça, c'est possible comment? Parce qu'on a deux types de neuroplasticité au niveau du cerveau. On va avoir une plasticité qui est activité dépendante. Elle est intéressante parce que lors du geste technique notamment, ce qu'on va faire, c'est faire répéter le mouvement plusieurs fois pour créer notre imagerie mentale positive. On va venir chercher le maximum d'informations proprioceptives, on va venir répéter ça. Et en fait, cette plasticité activité dépendante, elle résulte justement de l'activité de l'individu. Donc, c'est la plasticité cérébrale qui est liée à l'apprentissage du geste. Et ensuite, on a une plasticité de compensation spontanée. Celle-ci, elle est intéressante également plutôt dans le cadre de la réathlétisation au niveau du sport ou même de la santé en général. C'est-à-dire que suite à un traumatisme ou à une chirurgie, le cerveau, il va réorganiser le système moteur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement, il sera adaptatif à la situation. Pour corriger un mouvement, il faut le désapprendre pour pouvoir le réapprendre. C'est très compliqué à faire finalement en pratique. Par contre, au niveau mental, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et c'est ce qu'on fait avec la reprogrammation neuromotrice. Les champs d'action qu'on a dans l'imagerie mentale, donc on va avoir l'activation musculaire, tout ce qui est le recrutement musculaire. On va avoir aussi, dans un deuxième temps, tout ce qui est la limitation de la perte de force. On va pouvoir travailler en imagerie mentale, en imagerie motrice également sur les amyotrophies et sur l'amplitude articulaire. Donc ça, c'est vraiment les champs d'application qui sont possibles. Et on a notamment, par exemple, Emery Guillot qui a fait beaucoup d'études sur l'imagerie mentale et qui sont vraiment toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si l'imagerie mentale vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ces travaux. Et donc, la dernière partie de notre trépied, on a vu qu'on avait nos sensations proprioceptives, on a l'imagerie motrice et enfin, on a les sondes basse fréquence. Ces sondes basse fréquence, ils sont générés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'alpha box. C'est un générateur de sondes basse fréquence et ces sondes basse fréquence, ils vont avoir une action particulière, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter et optimiser le passage dans un mode dit alpha. Ce mode alpha, ce qu'il faut noter, c'est qu'il va permettre une hyperactivation des aires motrices. Donc du coup, ça va nous permettre d'être encore plus efficace sur le travail de notre imagerie mentale, puisqu'on travaille en imagerie motrice, donc on veut recruter au maximum ces aires motrices. Maintenant qu'on a vu le trépied de la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire de finalement comment elle fonctionne, la reprogrammation neuromotrice, je vous ai fait un petit parallèle sur la réathlétisation. C'est-à-dire, la réathlétisation, qu'est-ce qui se passe quand un athlète se blesse, quand un sportif se blesse? Il va se produire une cascade de réactions émotionnelles et de pensées. Ce processus de pensée sur le négatif, sur à la fois le passé et le futur, c'est le fait de se projeter, de se dire que on va avoir peut-être du mal à revenir, que ça va être compliqué, qu'il va falloir passer beaucoup d'étapes. Ça va correspondre à une imagerie mentale qui est spontanée, qui est créée par le sportif lui-même. Et lors d'une blessure, notamment avec une immobilisation, on aura le même système qui va se mettre en place avec des adaptations qui sont liées à tout ça. Et c'est ça, c'est de là, à partir de là, qu'on pourra parler d'inhibition motrice. Et donc finalement, le point de question, c'est un peu, est-ce que le désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire, mais provient plutôt d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice? Et c'est ce qu'on pense avec la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire que le souci ne viendrait pas finalement du geste final, mais de comment on est arrivé à ce geste final par l'intermédiaire de la commande motrice. Donc ces inhibitions motrices, on va les retrouver sous deux formes. On va avoir une première forme qui correspond à un enchaînement qui est dysfonctionnel et un nouveau mouvement créé adaptatif. Si je prends l'exemple dans la réathlétisation, c'est le cas par exemple dans les ligamentoplasties, les croisés, où on va se retrouver avec souvent des flessomes qui vont se mettre en place avec un système de co-contraction. Donc là, entre les ischio-jambiers et le quadriceps. Ce qui se passe donc, c'est que j'ai un enchaînement dysfonctionnel. Les ischio-jambiers qui ne devraient pas être recrutés dans l'extension, dans le mouvement d'extension, se retrouvent actifs et viennent gêner le recrutement du quadriceps. Je peux avoir une deuxième forme d'inhibition motrice qui va être la perturbation de la qualité de la contraction musculaire. C'est-à-dire cette fois que mon information, elle va passer jusqu'à mon muscle. Mon muscle, il va être recruté, mais il ne sera pas recruté complètement. Il pourra être recruté, par exemple, à 30, 40, 50, 60% de sa capacité, ce qui va faire que je vais réaliser mon mouvement, mais pas forcément en entier, sans compensation forcément autour. Et de ces deux formes d'inhibition motrice va découler deux visions. Et ces deux visions, on va donc avoir une vision distale, c'est-à-dire que c'est une modification de la proprioception, de tout ce qui se passe autour de nous qui va modifier les informations captées, ou alors une vision proximale, c'est-à-dire que cette inhibition motrice, elle part directement du cortex moteur qui va modifier, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, là où ça va se jouer, c'est au niveau de nos ganglions de la base, du thalamus, de notre substance réticulée, qui finalement va modifier l'information du mouvement et va provoquer cette inhibition motrice. À ces inhibitions motrices, on va retrouver plusieurs choses, ça va nous donner plusieurs conséquences qui vont être plus ou moins importantes. On va avoir, par exemple, des freins à la rééducation qui peuvent aboutir à des schémas compensatoires. Je vous montrerai cet exemple-là, notamment avec des sportifs qui vont être plus ou moins impactants et plus ou moins handicapants derrière pour la motricité et des patients et des sportifs. Dans ces conséquences, on va pouvoir retrouver, par exemple, des atrophies musculaires, une baisse de la CMV. La CMV, c'est la commande volontaire spontanée, une gêne dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction. C'est par exemple ce qu'on peut retrouver au niveau du genou avec des valgus dynamiques ou on peut retrouver des instabilités de cheville. C'est assez fréquent quand on a des entorses à répétition de se retrouver avec une instabilité de cheville qui persiste et qui est chronique. Tout simplement parce que je peux avoir une désactivation de mes muscles fibulaires qui ne répondent plus à ma commande motrice et qui peuvent être compensés par la suite par par des gastrocnémiens, un solaire qui va être sursollicité ou un tibial antérieur. Et ça peut derrière donner, par exemple, en conséquence, des périostites ou une tendinopathie d'Achille. C'est tout à fait possible. On va avoir également des perturbations du schéma moteur. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les ligaments en post-ligamentoplastie et les flessomes qui peuvent survenir, et des douleurs et des gènes. Donc là, c'est par exemple un premier cas clinique patient en réathlétisation. C'était suite à une rupture de ligament croisé antérieur. Donc il y avait eu deux ruptures à droite et une à gauche. On était à 5 mois et demi en post-ligamentoplastie. Et donc du coup, il y avait une séance de RNM qui a été, de reprogrammation neuromotrice qui a été effectuée. Et notamment, on se dit, on va forcément travailler le quadriceps. Et finalement, ici, c'est pas ce qui avait été fait. On avait travaillé sur le moyen fessier gauche et sur l'ischio-jambier gauche. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, je vais analyser grâce aux inhibitions motrices et aux ressentis du patient des muscles qui peuvent se mettre en compensation et surtout, bah, du coup, arrêter de travailler correctement par rapport à une blessure. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, il y avait un testing intermédiaire qui avait été fait sur un saut bipodal, par exemple, où derrière, le patient expliquait qu'il n'avait plus les mêmes sensations et qu'il pouvait y aller sans appréhension. C'est important aussi de se dire que la reprogrammation neuromotrice, ça peut donner quelque chose d'important qui est un regain de confiance aussi dans le patient. Donc, ça peut lui permettre derrière de repasser des caps qu'il n'avait pas passé jusque-là. Le deuxième cas clinique qu'on peut voir, donc c'est celui aussi d'une autre skieuse avec une grosse chute en super G. Donc, il y a les examens complémentaires, ils n'avaient pas donné de lésion et on avait trouvé une douleur au niveau du compartiment externe. Donc elle avait une douleur au niveau du compartiment externe. Elle a été infiltrée, il y a eu une arthroscopie qui avait été faite, des ancrages qui étaient levés et pour autant elle persistait ses douleurs. Et tout simplement ces douleurs, elles peuvent être liées à de la compensation. C'est ce qu'on trouve ici. Donc dans un premier temps, on avait travaillé sur un relâchement général. Ensuite, il y avait un travail sur le moyen fessier puisqu'on sait bien que le moyen fessier, ça donne la stabilité du bassin. Et forcément, si j'ai un manque de stabilité du bassin dû à un moyen fessier qui travaille moins bien ou des grands fessiers, parce qu'il faut y penser aussi, on peut avoir derrière des compensations au niveau des genoux, des chevilles, etc. Ensuite, il y avait une reprogrammation de l'ischio-jambier qui avait été effectuée. Donc, c'est pour vous donner une idée. Une autre idée un petit peu plus qui est assez drôle, je la raconte souvent parce que c'est mon cas clinique à moi, où du coup, j'avais des douleurs au niveau du genou, pareil, sur un compartiment externe inexpliqué. Au niveau de tous mes examens complémentaires, tout était OK. C'était survenu à la suite de squats et je comprenais pas pourquoi j'avais ces douleurs-là. Et un jour, je me fais tester pour le testing des inhibitions motrices et en fait, on se rend compte que j'ai une inhibition motrice au niveau du moyen fessier droit et au niveau du vaste interne droit. Et en retravaillant le moyen fessier droit et le vaste interne droit, ce qui a été intéressant, c'est que derrière, j'ai fait un trajet en voiture assez long et en fait, j'ai eu des courbatures tout de suite en post-RNM, en post-reprogrammation sur mon vaste interne. Et après, j'ai travaillé mon moyen fessier et en une quinzaine de jours, j'ai plus de douleur au niveau du genou et je n'en ai plus jamais eu. Donc, on peut avoir des douleurs qui sont liées à un schéma de compensation qui peuvent être dues à des manques de recrutement moteur de muscles à distance. C'est ce que je voulais vous partager un petit peu pour cette première partie sur les inhibitions motrices et sur la réathlétisation et la RNM. Les indications et les limites qui sont présentes pour pratiquer la reprogrammation neuromotrice. Dans les indications, on va avoir tout ce qui est les instabilités, les troubles de la motricité d'origine non mécanique, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des lésions nerveuses, sur des fractures, évidemment, ou sur des arrachements ligamentaires, par exemple. On va vraiment travailler sur du trouble fonctionnel. On aura une perte d'amplitude. On peut travailler sur les problèmes posturaux également et l'accompagnement des pathologies neurologiques. Et les limitations, c'est des capacités cognitives qui sont très dégradées, notamment des troubles de la compréhension avec le patient, des atteintes mécaniques et tout ce qui est patient hyperalgique, c'est juste dans le sens où si on ne peut pas toucher la personne, ça va être très compliqué de lui faire imaginer son corps sans douleur. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment de faire une séance de reprogrammation neuromotrice quand on a un patient qui est vraiment très algique. Donc, je laisse la parole maintenant à Stéphane et Thierry qui vont vous parler de tout ce domaine d'application de la reprogrammation dans le domaine directement du golf et du sport.
Nous, avec Thierry, dans le sport, les gens ne sont pas malades, en tout cas pas au même niveau que toi, et on s'en sert de trois façons. Dans un premier temps, pour un relâchement général, qu'on peut appeler la relaxation, avant la compétition généralement, mais on peut aussi s'en servir dans des phases, même s'il n'y a pas de compétition, de relaxation en général. C'est des séances qui ont un effet à peu près sur une quinzaine, entre 15 jours et 3 semaines. C'est assez simple d'utilisation et voilà, on est vraiment dans la relaxation, dans le relâchement. On s'en sert aussi dans la visualisation. Donc là, Bon, nous, dans le golf, pour avoir une compétition, on leur demande de visualiser leur partie, comment ils se voient au départ du 1, etc., etc., etc. C'est tout un travail qui est plutôt mental, mais sous l'influence du son Alpha Box, il y a une meilleure imprégnation et il y a de meilleurs résultats. On s'en sert aussi pour le focus à l'entraînement. Voilà, sous l'emprise du son aussi, plus de concentration, une meilleure qualité de travail. Et donc un meilleur ressenti, un meilleur feedback. Et après, on s'en sert effectivement et la plus souvent pour ça, sur une modification d'un geste ou sur la partie d'un geste. Mais il faut savoir que pour ça, nous l'utilisons, nous, avec Thierry, après avoir fait un bilan au niveau des préférences motrices déjà, en fait. C'est-à-dire qu'on a de bien meilleurs résultats après avoir fait les préférences motrices ou le bilan des préférences motrices de l'athlète ou du golfeur. Et ça nous permet de mieux cibler de faire meilleur bilan et de mieux cibler le travail à faire. Et après, avec l'utilisation du procédé Alian, on a des résultats qui sont quand même, pour nous en tant que prof de golf, bien plus rapides et durables dans le temps, puisque les défauts reviennent pas. Ça paraît un peu magique comme ça, mais c'est vrai. Mais on verra sur les exemples que montrera Thierry tout à l'heure. Mais on a de meilleurs résultats, plus rapides et qui durent dans le temps, en fait. Voilà. Donc voilà notre champ d'application un petit peu. Donc le relâchement général, une espèce de visualisation, ça c'est plutôt avant compétition, travail mental. Un focus à l'entraînement pour une meilleure qualité d'entraînement, parce que l'athlète, il est focus sur lui-même, il ressent mieux les choses, etc. Et puis la modification du geste ou une partie du geste, après avoir fait bien entendu un bilan sur les préférences motrices de l'athlète, qui c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Parce que si on travaille un geste, une erreur technique qui est due parce que la personne n'est pas dans ses préférences motrices, le cerveau avait fait cette compensation, le cerveau avait créé un défaut. Et si on ne traite pas à la source les préférences motrices qui pourraient être la cause, ben le cerveau, tôt ou tard, malgré le fait qu'on ait travaillé le procédé Alian, recréera la même erreur et la même compensation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'en sert pour la modification du geste ou d'une partie du geste. Et par contre, les deux couplets, préférence motrice et procédé Alian, c'est nous qui l'utilisons tous les jours, c'est top, quoi. Voilà.
En complément de ce que tu viens de dire, c'est vrai que de toute façon, que ce soit dans le domaine de la santé, que dans le domaine du sport, la priorité, elle est vraiment sur le diagnostic d'un point de vue santé, mais le diagnostic du point de vue du sport. Donc, nous, on a besoin vraiment de faire le point sur la personne qui est en face de nous, donc de travailler, comme le disait Stéphane, sur ses préférences motrices. Après, chaque enseignant a différentes méthodes ou techniques qu'il utilise comme diagnostic, et lui va pouvoir ensuite adapter par rapport à sa façon, à son enseignement, les modifications qu'il a envie d'appliquer à son élève. Bon, nous, en pratique, on constate bien que les préférences motrices, pour nous, c'est vraiment la base du travail. Après, on va travailler sur les limitations physiques. Donc, il y a les préférences motrices, ça, c'est une chose. Ensuite, les limitations physiques, parce que bon, quelqu'un peut avoir des préférences, mais il peut avoir aussi des limitations qui ne vont pas l'aider nécessairement à aller sur ses préférences. Donc ça, on est obligé d'en tenir compte. Et puis ensuite, bon, on a des enseignants de golf très connus dans le monde qui nous ont aidés aussi à pouvoir faire des bilans, qui nous aident à aller jusqu'au bout de la démarche et donc aller sur des modifications qui sont les plus pertinentes possibles, quoi.
Je voudrais juste rajouter que malgré le fait qu'on utilisait pour nous, pour notre part, Thierry, des bilans basés sur les préférences motrices, le procédé Alian a malgré tout amélioré notre travail journalier considérablement, parce qu'aujourd'hui, avec 2 heures de travail, on arrive à intégrer un mouvement qu'on pouvait avoir peut-être des fois au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois de travail avec un élève, en fait. Donc c'est quand même un gain de temps. Ça marche pas très bien si les préférences motrices ne sont pas respectées, mais quand ça marche, c'est le top, quoi. Et c'est un plus, quoi. C'est-à-dire que même les enseignants qui ne font pas les préférences motrices, forcément, la personne va intégrer beaucoup plus rapidement. C'est vraiment un gain de temps pour tous les entraîneurs, quel que soit le sport, tennis, rugby. J'ai eu la chance de faire des rugbyman pour les tirs au but ou pour le lancer en touche. Charlotte, tu as eu un tennisman. Thierry, tu as dû avoir aussi d'autres sportifs, nos golfeurs, etc. C'est un plus. Voilà, c'est vraiment un gain de temps. Oui, donc voilà, ça c'était Monsieur, 70 ans, 40 ans de pratique de golf. Donc bah, voilà, meilleur index 4,5. Aujourd'hui, il doit être 9,5 ou 10. Il est arrivé à perte un petit peu de... Il t'a passé bien après 40 ans, on s'imagine. Et perte de vitesse, manque de longueur. Après, on... voilà, il a pourtant les clubs qui vont bien. Il y a tout ce qu'il faut pour... Voilà, donc on aurait pu partir sur plein de travaux. Mais suite à mon bilan, j'ai décidé de partir sur... Il était en haut du backswing en train de taper une balle. Et donc, il était avec un armement maximum des poignets, c'est-à-dire très peu. Les bras n'étaient pas très hauts. Et donc, forcément, pour que générer de la vitesse, il se resservait, vu ses préférences motrices, il repartait avec le haut du corps pour chercher de la puissance. Et résultat, il n'y avait pas de vitesse de la tête de club. Donc, forcément... les balles qui n'allaient pas loin. Donc, on a travaillé sur un relâchement général. Donc, on a été, après le bilan, on a été en salle faire le procédé Alian. On a travaillé un petit peu sur le relâchement. Donc, on a visualisé, je lui ai fait visualiser, ressentir, parce qu'expliqué précédemment à Charlotte. Il visualise, il ressent physiquement, il imagine, je prends des vidéos, il se voit, etc. De ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire avec un peu plus d'armement de poignet, un club qui partait un peu plus haut. Il est en salle, on voit qu'il a le casque sur la tête. Donc là, il est en train de visualiser, de ressentir. Et la deuxième photo, là, il est en train de, on a fait un arrêt sur image, mais il est en train de taper la balle sur un swing à vitesse réelle. Et on voit que la hauteur de son backswing et l'armement de ses poignets sont plus hauts et plus loin. Et derrière, forcément, il y avait entre 7 et 12 mètres en fonction des coups. En moyenne, les balles étaient plus longues et c'était un fer 9. Derrière, on était OK. On est reparti en salle faire une séance d'ancrage. Ça, c'était la semaine dernière. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, il est toujours content. Il a toujours ses 10 mètres de plus en moyenne avec son fer. Donc, on aurait pu faire ça sans la machine à Yann. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Un monsieur qui a 40 ans de golf, qui a 70 ans, qui a jamais utilisé les poignets, et si je lui avais demandé, ben, tout bêtement, ben, vas-y, joue avec tes poignets, ce qu'il essayait de faire au début du cours, il croit qu'il utilise les poignets, et après vidéo, on voit toujours que le club, il bouge pas pareil. Les préférences motrices aident un petit peu, mais avec la séance Alian, après une séance, alors qu'il tape la balle, autant d'écart, ben, c'était gagné pour moi, c'était gagné pour lui, et tout le monde était content. Deuxième cas, ça c'est Identity.
Ouais, donc là, alors cette séance-là, je l'ai prise en exemple parce que c'est ma première séance, c'est la première séance que j'ai effectuée après ma formation et ma certification. Et comme le résultat était spectaculaire, pour moi c'est un vrai modèle quoi. Donc c'est une personne qui a aux alentours de 45 ans, qui est une joueuse occasionnelle, qui prenait des cours pas régulièrement et qui avait des coudes qui étaient pliés au moment de l'impact et après l'impact. Voilà, donc le travail après avoir effectué le bilan, c'était de travailler sur l'extension de ses bras à l'impact et après l'impact, et donc de supprimer ce qu'on appelle chez les profs de golf l'aile de poulet du côté gauche. Donc vous voyez sur les images du dessous le travail effectué donc sur une table de massage. Alors là en l'occurrence on avait la possibilité de le faire comme ça, mais on peut tout à fait l'effectuer assis. Le tout, c'est que la personne soit le plus décontractée, relâchée possible. Donc là, elle écoute les sons. On la met là sur cette partie-là en état d'hypovigilance. À partir de là, on va travailler sur la position que l'on souhaite obtenir avec la reprogrammation. Donc là, on est sur l'extension des bras. Donc là, elle est en train de se mettre en position et en même temps, elle me fait la description de ce qu'elle ressent. Et donc, quel muscle pour un joueur de golf, on va vraiment être sur son ressenti. Donc, pour elle, ça va être « je sens que j'ai une tension dans le bas du dos à droite ». Enfin, voilà, on est vraiment sur ce genre d'informations et pas du tout sur des choses médicales. Alors, sauf si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment calé à ce niveau-là et auquel cas, on le prendra en compte. Mais sinon, la plupart des gens qui sont avec nous, on est vraiment sur « écouter vraiment ce qu'ils nous décrivent ». Et ensuite, on va vraiment utiliser ça pour l'insérer dans la reprogrammation. Voilà. Donc, elle me décrit, je sens une tension à tel endroit, mes bras sont allongés, donc j'ai mon coude qui est verrouillé. On va utiliser leurs termes après pour effectuer la reprogrammation. Juste après la reprogrammation, on voit que tout de suite, elle a intégré le nouveau geste et on se retrouve avec les bras allongés. Et ça, en ayant tapé uniquement deux balles. Donc ça, pour moi, c'était ma première reprogrammation neuromotrice. Alors, la deuxième slide, on est sur un bon joueur, un joueur qui est en équipe de France militaire. Et là, suite au diagnostic sur les préférences motrices, en fait, on s'est aperçu que il optimisait pas ce que nous on appelle dans les préférences motrices sa boucle motrice. Donc, et donc le fait de ne pas utiliser sa boucle motrice, ça l'empêchait de pouvoir optimiser sa vitesse de tête de club à l'impact et donc nécessairement de générer le maximum de vitesse.
Pour que ce soit plus clair pour les gens, la boucle motrice, c'est comment tu utilises le sol en fait. Est-ce que tu l'utilises en poussée ou plutôt en rebond? C'était lors d'un regroupement que tu avais, je me souviens bien, avec l'équipe de France. Et donc, on l'avait diagnostiqué devant plutôt utiliser le sol en rebond. Il n'utilisait pas en rebond. Et donc, voilà, après le diagnostic, on y a fait.
Ouais, donc voilà, là vous avez, donc on utilise avec Stéphane des outils, là en l'occurrence un radar de balle qui nous permet d'avoir des datas et d'avoir une confirmation sur concrètement si la modification qu'on apporte, elle va dans le sens que l'on recherche. Et donc là en l'occurrence, vous avez les chiffres qui apparaissent et vous avez donc le club speed qui est entouré, qui vous donne donc la vitesse de référence avant reprogrammation du joueur. Donc là, l'objectif, c'était de lui faire sentir comment il allait pouvoir réaliser la chute, donc ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire descendre sur ses appuis dans la phase de descente du geste de golf. Donc on va utiliser les termes techniques pour les profs de golf qui nous suivent. Donc dans le downswing qui chute en même temps dans le downswing pour augmenter la vitesse de la tête de club. Donc après on utilise les mêmes étapes hein. Donc première étape état d'hypovigilance, deuxième étape c'est on va partir sur les sensations proprioceptives, créer l'image mentale de ce qu'il doit faire. Et donc encore une fois après la slide suivante, donc ça c'est la balle qu'il a tapée juste après la reprogrammation. Donc là sur l'image, vous voyez bien qu'il y a une augmentation de la chute, donc une baisse de la tête au moment de l'impact. Et là, vous voyez, donc là, c'est pareil, hein, c'est des datas de notre launch monitor, de notre radar. Et on voit que il a gagné plus de 7 miles par hour de vitesse de tête de club, ce qui est considérable juste en effectuant cette chute et donc en optimisant ses préférences motrices. Et donc voilà, la reprogrammation consistait à améliorer cette utilisation des préférences motrices et la conséquence, c'est une augmentation de la vitesse de tête de club. Oui Stéphane, je vois que tu as envie de dire quelque chose.
Ouais, j'étais là et il faut se préciser quoi, il n'a pas cherché à taper plus fort, il n'a pas cherché à monter plus loin, enfin à avoir un backswing plus grand, plus rapide, etc. C'était juste l'utilisation pour lui du sol correctement et ça a tout de suite eu ce rendu là et on n'était pas du tout dans la recherche de taper plus fort parce qu'il tapait déjà pour un amateur correct, on n'a pas cherché à forcer, c'était juste voilà, c'est la bonne utilisation avant et après la machine. Forcément le procédé Alien lui a permis de le ressentir très rapidement et en espace de 1h30 ou 1 heure après, je sais plus combien de temps ça avait duré, on a eu ce diagnostic là. Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir aussi, très honnêtement, sans le procédé Alien à l'époque, même avec les préférences motrices, un rendu aussi rapide, c'est compliqué. Je pense que tu confirmes, Thierry.
Ouais, complètement. De toute façon, là, on a décidé de faire le choix de cas qui soit représentatif d'une modification qui soit très visuelle. Et là, en l'occurrence, de prendre des datas. Mais dans le golf et les coachs de golf qui nous écoutent savent très bien que les modifications qu'on effectue sont pas toujours aussi visuelles que ça. Et la vraie difficulté dans le golf, c'est que effectivement, entre ce que je vois, ce que je pense faire et ce que je fais, il y a de vraies différences. Donc, et là, vraiment, le procédé nous permet vraiment aux joueurs d'être hyper focus sur ce qu'il fait et en même temps d'avoir une description optimum de la modification qu'on souhaite apporter. Et en fait, on voit bien que dès que c'est comme ça, tout de suite, les modifications, elles se font sans problème, quoi.
Merci en tout cas à tous pour votre écoute.
Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt.